Dernière séquence avant l'adaptation théâtrale de cet après-midi. En termes d'organisation, je suis Lionel Ruffet, je vais faire une présentation rapide de cette session et je donnerai la parole à Pierre Sange qui est à ma droite. Nous ferons une pause, Jacques Jouet reprendra après la pause et nous aurons ensemble une discussion avec l'un et avec l'autre. Donc pour introduire cette séquence, je voudrais évidemment remercier Jacques Neff et Anne Herschberg-Pierrot de m'avoir donné l'occasion de modérer, puisqu'ils vont pas se taper dessus, de répondre. Et comme tout bon répondant, je commence. Cette dernière séance qui m'a permis d'approfondir la lecture de Jacques Jouet et de Pierre Sange. Et donc vous aurez remarqué que cette dernière session laisse la parole aux créateurs, aux écrivains. Cette présence des écrivains contemporains dans le cadre de colloques universitaires est plus ou moins justifiée. Là, elle est particulièrement justifiée et elle est particulièrement appelée par l'objet sur lequel on travaille. Et cet objet, donc j'ai essayé juste, c'est sur cela que je vais introduire cette matinée, il est multiple. Bouvard et Pécuchet, archives et interprétation. Inviter des auteurs à parler de Flaubert n'est pas forcément difficile puisque beaucoup ont parlé de Flaubert. C'est peut-être un des auteurs sur lequel les écrivains contemporains parlent le plus et analysent le plus. Il est même un personnage de fiction chez Julian Barnes. Il est thématisé dans bien des œuvres et beaucoup le commentent. Je dirais d'une certaine manière que du livre sur rien à la folle tentation encyclopédique, c'est toute la littérature contemporaine qui paie un tribut à l'œuvre de Flaubert qui apparaît comme la championne du monde, toute catégorie, de l'influence littéraire. Cette présence si singulière, si marquante, je crois, hein, on pourra en discuter, hein, mais je le pense. Tiphaine Samoyo l'a relevé en traçant trois lignées dans un article qu'elle avait fait paraître dans la revue Flaubert, je crois. Trois lignées, dont la lignée Bouvard et Pécuchet. Ces trois lignées sont, comme l'Iliade et l'Odyssée de Queneau, destinées à embrasser toute la littérature contemporaine, de la poésie expérimentale au roman le plus romanesque. C'est donc à une de ces lignées que nous nous intéressons ce matin, celle dont Tiphaine dit « Il y a chez tout écrivain un aphasique qui veille, un animal tapis à l'écoute, aux aguets ». Tous les écrivains qui comprennent cela marchent à un moment ou à un autre sur la ligne Bouvard et Pécuchet. Cette ligne a ses compagnonnages contemporains, tout est si célèbre qu'elle, le Bartleby de Melville ou l'idiot de Dostoïevski, ses héritiers plus ou moins lointains, les personnages de Kafka évidemment, Laurel et Hardy, peut-être les Duponté et Dupondé, et ses constantes réactualisations contemporaines, on va peut-être en voir ce matin. Cette lignée est si puissante qu'elle a presque métabolisé l'ensemble de la littérature contemporaine en trois groupes qui parfois communiquent et que je vais juste essayer de repérer moi aussi. On voit aujourd'hui dans la littérature contemporaine un certain nombre d'histoires non conventionnelles qui examinent l'histoire à partir des paradigmes de l'échec, de l'absence, de l'invisibilité. Et dans ce groupe, on pourrait repérer un certain nombre d'auteurs qui vont de Jean-Yves Joinet à Enrique Villamatas ou Roberto Bolaño. Un autre groupe fait de la pulsion archivistique une affaire littéraire et artistique et non un enjeu des sciences humaines. Pérec l'a presque inauguré, mais on la retrouve désormais partout. Jusqu'à l'œuvre de Patrick Ourani que Florence Pellegrini a analysé dernièrement. Un autre groupe est enfin allé plus loin, je crois que c'est le pour en discuter tout à l'heure, en faisant de Bouvard et Pécuchet leurs modèles esthétiques, leur empruntant une puissance narrative, philosophique et littéraire qui n'est pas seulement potentielle dans l'œuvre de Flaubert. Avant d'introduire très brièvement l'œuvre de Pierre Sange et de Jacques Jouet, pardon, qui l'une et l'autre me semblent résonner avec ces trois polarités, un mot tout de même sur le troisième objet du colloque, il s'agit des archives. Les archives ou l'archive, employée au singulier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, font l'objet d'un véritable culte dans les sciences humaines, les pratiques artistiques et littéraires à l'époque contemporaine. Évidemment, les historiens l'évoquent beaucoup, ce goût de l'archive, mais ce qui est beaucoup plus frappant aujourd'hui, c'est la fascination pour l'archive, fureur, mal, fièvre, qui traverse tous les champs de la représentation et s'inscrit comme une des problématiques majeures de la contemporanéité. Il y a une forme archive Avec un trait d'union, il existe une forme archive qui se déploie aujourd'hui des discours savants aux pratiques artistiques dès lors qu'il s'agit de proposer une visée herméneutique. C'est probablement le legs le plus fécond de Bouvard et Pécuchet et il déborde de très loin la pratique littéraire pour se développer ailleurs, notamment dans l'art contemporain. Évidemment, ça pose des problèmes, notamment sur la distinction entre archives savantes et archives artistiques, qu'il ne faut pas confondre. Le critique d'art Christophe Kim a, dans un article éclairant, montré que les archives dans le domaine savant distinguaient très clairement le moment de la collecte d'éléments ou d'informations et la restitution ou la reconstitution par l'étude, alors que les archives artistiques avaient tendance à faire fusionner au sein d'un même processus exhiber comme tel ces deux moments de la constitution et de la restitution. Cette fusion, on la retrouve à mon avis très clairement dans l'œuvre de Pierre Sange, qui revendique l'importance de Bouvard et Pécuchet jusqu'à en proposer une adaptation théâtrale que nous verrons cet après-midi, qui reprend elle-même une pièce radiophonique qui s'intitule Bouvard et Pécuchet, copiste. Sange est d'ailleurs tout autant, vous me permettrez cette expression, Bouvard et Pécuchet que Flaubert, et c'est ce qui rend son œuvre à ce point, à mon avis, fascinante. Son premier livre n'en faisait pas mystère, le narrateur étant un copiste qui avouait « J'avais pris goût aux recherches, aux archives ». Je cite le narrateur. Cette phrase pourrait donner une clé de compréhension de son œuvre, puisque l'ensemble de ses livres repose sur une ou plusieurs recherches dans le champ des savoirs archivistiques, ceux qui pratiquent la collecte ou l'accumulation. Mais le copiste, le botaniste, le faussaire se livre à des interprétations fantaisistes, et je reprends le dernier mot du colloque, du titre du colloque, interprétations fantaisistes, excentriques et inquiétantes. Il renverse parfois l'histoire officielle et interroge l'interprétation qu'on peut faire des archives. Dans d'autres ouvrages, Sange fait pencher la balance auteur-narrateur un peu plus du côté de l'auteur, comme dans « Études de silhouette » ou à l'image de ses narrateurs copistes excentriques, il s'empare d'ébauches narratives de Kafka pour les compléter, ou à l'inverse, reconstituer un hypothétique grand livre secret à partir des fragments de Lichtenberg. Enfin, une forme d'essai métalittéraire collectionne les idiots littéraires eux-mêmes, et il s'intitule « L'idiot et les hommes », on en a parlé un petit peu hier, il n'y a que très partiellement mentionné Bouvard et Pécuchet, peut-être on en parlera tout à l'heure. Jacques Jouet construit, lui, une archive. En tout cas, c'est ainsi que j'ai ressenti son œuvre en y travaillant dessus. Son œuvre est une des rares du corpus contemporain à embrasser une multitude de genres, de formes, d'approches, à s'astreindre à une discipline de l'abondance, avec au moins une publication annuelle, parfois plus. Cela suppose un renversement de perspective sur la création littéraire. Celle-ci ne peut plus s'envisager comme l'expression de la plus grande singularité, de l'originalité chaque fois recommencée, mais comme une pratique, virgule, sérielle et relancée par la contrainte. Et évidemment, je précise, mais je pense que tout le monde le sait, que Jacques Jouet est membre de l'Oulipo. Il y a aussi quelque chose chez lui du copiste, une soif inextinguible de mots, de formes, de genres, qu'il collecte en les pratiquant, et qu'il nous amène à pratiquer en nous livrant à deux très savoureux guides de lecture, en général en préface de ses ouvrages. Son œuvre prend donc au final la forme d'une bibliothèque, la multiplicité est même multipliée dans les livres mêmes, qui parfois en contiennent plusieurs, actualisés, ou de nombreux autres potentiels. Je pense par exemple à l'avertissement de Baudot, qui, dans une préface, nous dit que la préface est un genre, ou plus exactement un sous-genre de ce grand genre qu'est l'essai. Un jour, j'écrirai un roman qui s'intitulera « Préface », il sera constitué de préfaces. Donc il y a dans les livres des projets de livres qui potentialise encore cette multiplicité. L'œuvre actualisée de Jacques Jouet est déjà impressionnante, celle potentielle relève, à mon sens, de l'archive, et je signale, par ailleurs, qu'il a écrit un formidable Trois Pontes, que j'ai ici, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, qui est évidemment une fantaisie à partir des Trois Contes de Flaubert. Voilà. Voilà pour cette présentation. Je laisse maintenant la parole à Pierre Sange.
Je peux prendre la place aussi.
Si tu veux.
Bonjour. Vous m'entendez bien, là, ça va ? Merci pour cette invitation qui me flatte et m'intimide un peu. Ça va comme ça ? Je vais commencer tout naturellement.
Oui, ça, ça marche, là, ça marche.
Oui, ça, ça marche. Ça marche.
M'approcher du micro. Ah, voilà. Je vais commencer assez logiquement par un préambule. Pour illustrer l'inévitable altération d'un texte au fur et à mesure des copies successives, Luciano Canfora, qui est professeur de philologie à l'université de Bari, il est l'auteur du « Copiste comme auteur », dont il sera souvent question. Luciano Canfora cite Tom Stoppard, que je recopie à mon tour. Tom Stoppard écrit « Ce matin, j'ai eu l'occasion de me faire taper à la machine une lettre autographe que j'avais adressée au père d'un étudiant. La copie qui en est résultée affirmait que le recteur de Balliol avait le sacro-saint devoir d'éradiquer le Tizio contre nature. En d'autres termes, quiconque a une secrétaire sait que les vers authentiques écrits par Catulle étaient déjà dénaturés après avoir été copiés deux fois, c'est-à-dire vers l'époque de la première invasion romaine de la Bretagne. Or, la plus ancienne copie qui nous en est parvenue a été écrite environ 1500 ans après cette invasion. Imagine combien cela fait de secrétaires. » Donc c'est une secrétaire, forcément. L'erreur ici suppose l'existence de deux acteurs, le deuxième faisant office de copiste. Parfois, une seule personne suffit, tenant bénévolement les rôles de l'auteur et du copiste. C'était mon cas, lorsque j'ai dû recopier pour le programme de ce colloque le titre de l'adaptation théâtrale prévue pour cet après-midi. Dialogue de Bouvard et Pécuchet copiste est devenu dialogue des Bouvard et Pécuchet copiste. Selon Luciano Canfora, il n'y a pas de faute mécanique. Elles sont toutes ou presque conceptuelles. Parmi les explications qu'on pourrait donner à ce passage du « de » au « des », je me contenterai de celle donnant à un couple de jumeaux copistes le droit d'exister en plusieurs exemplaires. Dans un admirable éloge du style contenu quelque part dans le livre de l'intranquillité, Fernando Pessoa raconte comment le rythme de la phrase demandera d'écrire selon les cas « des dieux » ou bien « de dieux » au singulier. Et là, je le cite de mémoire, « Parfois, les deux syllabes de l'expression « des dieux » s'imposeront d'elles-mêmes et je change alors verbalement d'univers. » De la forme d'une phrase découle soit le monothéisme, soit le polythéisme, qui ont chacun leur tour la préférence de Pessoa, et Pessoa termine en écrivant « les dieux existent en fonction du style ». Donc j'espère donc que cette coquille, ce bourdon conceptuel et non mécanique, sera l'occasion pour nous de faire encore une fois, sous l'égide de Gustave Flaubert, l'éloge du style. Préambule numéro 2. Je préfère que des préambules, ça serait un exercice jouettien comme ça. Puisqu'on a eu la gentillesse de me donner la parole, je parlerai de mon travail d'adaptateur de Bouvard et Pécuchet pour la radio et pour la scène, de cette situation particulière d'auteur-copiste-lecteur dans laquelle nous met ce travail d'adaptation. Et comme il est question de copie, d'archives, de lecture et d'interprétation, autrement dit de comédie, je ferai tout d'abord quelques détours du côté de l'identification de l'écriture considérée comme un jeu d'acteur, de l'imitation, de la copie, du style, et en rapport avec tout ça de ce que Flaubert appelle dans sa correspondance « l'adieu au personnel ». Alors je ne sais pas si ces détours apporteront un éclaircissement quelconque à ma modeste expérience d'adaptateur, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le faire, au nom du « on ne sait jamais ». Bien sûr, le contraire du « on ne sait jamais », c'est le « à quoi bon ». Sous le coup de « l'à quoi bon », pas grand-chose ne résiste, surtout pas mon intervention d'aujourd'hui. Pas grand-chose, sinon quelques livres, les grandes œuvres qui, d'après notre auteur, sont sereines d'aspect et incompréhensibles. Mes détours débutent par une phrase de Gustave Flaubert puisée dans la caverne d'Ali Baba de sa correspondance. Bouvard et Pécuchet m'emplissent à tel point que je suis devenu eux. Alors je tiens à dire que j'ai été soulagé lorsque j'ai appris que la devise « La Bovary, c'est moi » était apocryphe. Comme ont dû être soulagés certains croyants fatigués d'être croyants le jour où ils ont été convaincus que Dieu finalement n'existait pas. Mais ceci est un témoignage personnel et nous devons dire adieu au personnel. À y bien réfléchir, remplacer Bovary, c'est moi par je suis devenu eux ne nous apporte que des avantages. Ça leur revient à remplacer un assez naïf, autosatisfait et bête épanchement de soi dans sa créature en l'exercice contraire, plus exigeant et parfois douloureux, quand il fait subir à Gustave les nausées de son personnage. Bouvard et Pécuchet m'emplissent. Il s'agit bien cette fois de donner physiquement et mentalement l'hospitalité à des figures nées de l'écriture, peu à peu devenues autonomes à force de caractère et qui s'imposent. Note 1. Mes bons hommes, se précise, lettre à Caroline, 1er septembre 1872. Mes bons hommes se dessinent dans mon esprit, lettre à Caroline, octobre 1872. Si vous me permettez, je vais poser une question idiote. Comment devient-on Bouvard et Pécuchet? Ou plutôt, comment Gustave Flaubert est devenu Bouvard et Pécuchet? Question qui se décline en « de quelle manière Gustave est devenu ?» et pourra inspirer plus tard hein, comment nous autres, à notre tour, pourrions devenir Bouvard et Pécuchet si jamais on se prenait à le vouloir. Comment Flaubert est devenu Bouvard et Pécuchet? À force d'abnégation, de sacrifice? À force de poser un regard de myope sur ses pages, si près que les lignes d'écriture en deviennent tangibles au-delà du raisonnable, comme lorsque les points de la typographie deviennent sous une lentille grossissante et d'après furtière des châtaignes hérissées? Est-ce qu'il lui a fallu la ferveur du mystique, inspirée de son saint Antoine, ou seulement la force de l'habitude, la routine et le recommencement, la fréquentation quotidienne sur un mode tout à fait bouvard et pécuchéen? Si ça ne suffit pas pour expliquer les métamorphoses, il faut envisager la fièvre de l'écrivain, pas ferveur de l'inspiré, mais plutôt surchauffe du travailleur, avec ses maux de tête et d'indéfinissables crises de nerfs. Le désordre du corps combiné à l'impatience et à son contraire, la faculté de durer. On ne parvient pas encore à une conclusion, mais au moins on commence à y voir un peu plus clair. Pour devenir Bouvard et Pécuchet, il a fallu la surchauffe de l'écrivain attaché à un joug et s'acharnant comme un bœuf, et l'alternance de l'exaltation suivie de la déprime. Mais ça ne suffit toujours pas. On devine dans le « je suis devenu eux » des mécanismes, une intention, des circonstances, un trait de génie peut-être, une manière de faire propre à Gustave Flaubert et à la littérature qu'il a bien voulu mettre au point avant de nous la léguer. S'inspirer comme il le fait, s'identifier comme il le fait suppose l'empathie et l'intelligence quand l'intelligence est connaissance de ces créatures, en plus de la ruse appliquée aux rigueurs du métier. Une connaissance dépouillée de mépris et de raideur au profit d'une tendresse elle-même théorisable, entendez par là qu'elle est raisonnée ou pourrait l'être, et continuerait le cas échéant de vivre sous les deux espèces du sentiment et du raisonnement. Le « je suis devenu eux » est soit le symptôme, soit la cause de l'une de ces énormes fatigues flaubertiennes. Les personnages immortels viennent à bout de l'auteur provisoire. Note 2. Mes bons hommes se portent bien, mais c'est peut-être de leur faute, je ne dors pas assez. Lettre à Caroline, 10 juin 1878. Les personnages immortels viennent à bout de l'auteur provisoire, c'est en lui qu'ils aménagent leur ferme, installent leurs étagères, leurs bibliothèques, puis leurs brocantes, leurs scepticismes, leurs alambics, les conserves, les crucifix et pour finir un nombre inestimable de vieux papiers. En lisant tout ce que Bouvard et Pécuchet devaient lire, Flaubert fait place vide en lui, il s'est creusé en s'encombrant et son hospitalité est celle de l'homme déjà plein. Pour devenir Bouvard et Pécuchet, je ne sais pas si l'amour est nécessaire, mais il faut assurément le contraire de la détestation, et jamais l'indifférence. Alors, va pour l'amour. Venu, lui aussi, au fil des jours, par habitude, comme on en vient à deviner une forme d'affection au sein d'un vieux couple. Cette forme flaubertienne d'affection doit se montrer compatible avec un agacement, par moments féroce, toujours très stylisé. Elle doit être non romantique, éviter le sentimentalisme, ne jamais perdre de vue le métier et ses difficultés. Donc être compatible avec tout ce que la création d'un personnage suppose de technique. Note 3. Le 93 du Père Hugo me paraît au-dessus de ses derniers romans, mais quel bonshomme en pain d'épices que ces bonshommes. Le don de faire des êtres humains manque à ce génie. C'est par cet équilibre de tendresse et de technique que l'identification de Flaubert à Bouvard et Pécuchet ressemble plus au travail du comédien. À l'heure d'interpréter Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert semble anticiper de quelques années les coquetteries de Nietzsche, faisant de lui-même un acteur héritier direct du coryphée antique. Plus tard encore, l'écrivain, si flaubertien par certains aspects et si anti-flaubertien par d'autres, Miklós Szentkuti, rappellera avec fierté son ascendance théâtrale. comme si l'histrionisme était un travers de famille applicable au travail d'un auteur. De fait, Miklos adorait donner audience dans un déguisement d'archevêque ou se présenter au bal déguisé en Casanova. Lui-même fils de saltimbanque et lui-même volontiers comédien de lui-même, pas seulement au cours des dîners, mais dans son écriture. Si tu écris, sois écrivain. C'était le conseil donné par son père à Miklos Cetkouti. Quelque chose comme une injonction de la bourgeoisie traditionnelle, celle qui accorde toute sa confiance au titre, parce que tout le reste en découle. Mais cet avis simple et empesé, proche de la tautologie, signifie également, ou signifie surtout pour Cetkouti, qu'il est difficile de se mettre à écrire sans d'abord se glisser dramaturgiquement, comiquement, dans la peau d'un écrivain. Admettons donc l'hypothèse absurde, Flaubert fait l'acteur, il fait le cabotin, il diligente ses emphases en privé, les nausées sont le signe de l'exactitude de son écriture, disons de son efficacité, comme elle serait la preuve du juste engagement d'un comédien un peu survolté dans la peau de son personnage. Les emportements flaubertiens ressemblent parfois à des démonstrations dans le style méthode, l'Actor Studio. Ils donnent lieu à des exagérations théâtrales, comme le jour où Flaubert, d'après ce que nous dit l'un des frères Goncourt, revendique 1000 poux en Égypte quand un des convives vient d'affirmer en avoir eu 500. Il existe une lettre à Louise que les Flaubertiens, que vous tous, doivent connaître par cœur et se souviennent comme d'un manifeste n'ayant jamais par bonheur la forme guindée d'un manifeste. Je cite « Voilà la conclusion de ces 4 semaines fainéantes. Adieu, c'est-à-dire adieu pour toujours au personnel. » Rien de ce qui est de ma personne ne me tente. Un homme n'est pas plus qu'une puce. Nos joies comme nos douleurs doivent s'absorber dans notre œuvre. Je suis dévoré maintenant par un besoin de métamorphose. Pour agrémenter la thèse farceuse d'un Flaubert comédien, on n'aurait pas de mal à puiser dans ses phrases les éléments d'une profession de foi théâtrale. L'effacement de l'acteur, l'oubli de sa personne, l'éventuel détournement des sentiments au service d'une représentation et par-dessus tout le désir de métamorphose comparable au désir de William Shakespeare, si souvent évoqué par Flaubert quand il est question d'en finir avec le moi, désir d'être tous les hommes en passant par l'effacement presque complet de sa biographie. Note 4. Shakespeare est quelque chose de formidable sous ce rapport, ce n'était pas un homme mais un continent, il avait de grands hommes en lui, des foules entières, des paysages. Lettre à Louise, toujours 1852. Si le précédent shakespearien nous convainc, admettons que l'adieu au personnel, nécessaire et urgent, peut s'accomplir par la métamorphose de Flaubert, devenant Bouvard et Pécuchet. La science, considérée comme recherche d'un savoir thésaurisable tout en restant à jamais énigmatique, exige une grande capacité de travail, à quoi les bons hommes, Bouvard et Pécuchet, ajoutent, ou même substitue une plus grande capacité encore d'imitation. On le sait, la médecine, pour Bouvard et Pécuchet, ne signifie pas seulement s'instruire des rudiments de l'anatomie, puis les appliquer tant bien que mal. Faire médecine signifie surtout faire le médecin. Quelques saisons plus tôt, se lancer dans l'agriculture voulait dire faire le paysan. Du coup, l'école des savoirs, même encombrée de livres, est faite de tréteaux, réels ou symboliques, sur lesquels les bons hommes s'ingénient à composer, recomposer, la posture du savant, savant de tel ou tel type. Quand il sera l'heure de fumer la pipe pour jouer l'écrivain, si tu écris, sois écrivain, ils fumeront. Quand il leur est demandé de se laisser pousser la barbe pour faire le paysan, ils laissent pousser, voyant dans cette passivité quasi-végétale un acte déterminant, un bon signe, les prémices du succès. Tout le monde se souvient de ce moment particulièrement dramatique où le désespoir et la mort se mêlent aux aventures des deux bons hommes. Pécuchet sur une chaise, il a déjà la corde au cou, je cite « L'esprit d'imitation emporta Bouvard. Attends-moi » Et il montait sur l'autre chaise quand s'arrêtant tout à coup. « Mais nous n'avons pas fait notre testament. Mais tiens, c'est juste. » Des sanglots gonflaient leur poitrine, ils se mirent à la lucarne pour respirer. L'esprit d'imitation emporte Bouvard, il emporte aussi Pécuchet, il l'a emporté plus d'une fois. Le même esprit d'imitation avait déjà entraîné les deux copistes l'un vers l'autre, il les avait initiés à l'agriculture, à l'histoire, à l'hygiène et à toute science du moment qu'elle possède des attributs remarquables et dicte une façon de se tenir. Nécessairement vers la fin de leur parcours sans fin, au chapitre 8, entre une crise de désespoir et l'écriture d'un testament, cet esprit d'imitation emporte Bouvard du même côté que Pécuchet, la mort, ou pour mieux dire, la représentation la plus immédiatement crédible de la mort. On le savait avant Bouvard, l'esprit d'imitation emporte. Les peintres en ont fait un mode d'apprentissage sans nécessairement vouloir inventer l'académie, mais en acceptant l'académie comme une des conséquences possibles de l'imitation, y compris quand elle est enthousiaste. L'esprit d'imiter emporte ici jusqu'aux dernières extrémités, et la mort elle-même, appelée partout ailleurs fatalité, accident stupide, cruauté des maladies, etc., devient pour Bouvard et Pécuchet un objet d'imitation comme les autres. Chavignol, dans la ferme où tremble un alambic, est une vaste machine où les faits les plus tragiques deviennent objets de l'imitation. Ils sont avant tout une forme, un ensemble de gestes remarqués et remarquables, et des signes comptant sur la connivence pour être reconnus. Quand Bouvard se pend à une corde pour imiter Pécuchet, les témoins de leur suicide, le lecteur, prennent des leçons d'artificialité du monde. À ce moment-là, venu de sous les planches d'une pièce de Shakespeare, encore lui, les souffleurs de Macbeth, sinon Macbeth en personne, pourraient prononcer opportunément la réplique, passant pour une devise, « Le monde est un théâtre ». Que la mort soit aussi facilement entraînée dans un dispositif mimétique en dit long sur les pouvoirs de l'esprit d'imitation façon Bouvard et Pécuchet. Bouvard pendu à côté de Pécuchet démontre l'artificialité même d'une pulsion de mort, de la désespérance, des ténèbres, de la démence et du désir d'en finir. Il rappelle que la redondance s'applique à toute chose. Le flambeau tenu par Pécuchet prétendait être dantesque. Il était ornemental. Il est un accessoire. Même sur le point de s'achever, la vie des deux bons hommes reste une représentation de la vie, comme l'est si souvent la nôtre par métonymie. Des sanglots gonflent leur poitrine, pourquoi pas? Les sanglots sont compatibles avec l'esprit d'imitation. Ils ont leur place dans une mise en scène amateur. Leur authenticité n'en est pas altérée. Ni les sentiments, ni la simplicité ne sont étrangers à l'illusion comique. L'esprit d'imitation emporta Bouvard. Les recherches de Luciano Confora à propos d'original et de copie dans le domaine des textes antiques pourraient, sinon nous en apprendre long, du moins nous aider à comprendre un peu Bouvard et Pécuchet. On peut se demander si les deux copistes ne vivent pas dans le monde textuel décrit par Canfora, à savoir un univers où non seulement l'original est introuvable, mais où sa recherche est une erreur. L'original proprement dit n'ayant jamais existé, ni comme trace authentique, ni comme source unique. Selon Luciano Canfora, il n'y a pas d'original. Il n'y a que des copies. Et à l'origine de ces copies, une copie parmi d'autres, seule survivante, désignée comme seule source en attendant de trouver mieux. Il n'y a que des bibliothèques publiques ou privées remplies jusqu'au plafond de copies déjà farcies d'erreurs, prêtes à en engendrer d'autres, quand ce ne sont pas des faux écrits pour l'occasion, comme dans la bibliothèque de Pergame où, paraît-il, les conservateurs n'étaient pas très regardants. Quelques philologues modernes espèrent parfois remonter à l'origine d'une œuvre en parcourant en sens inverse les embranchements d'un arbre vers un tronc formidable. À leurs yeux, c'est assez simple, les différentes versions d'un texte naissent de l'altération d'une seule source située quelque part, peut-être dans les limbes, mais toujours cristalline, son auteur n'ayant qu'une seule parole. En vérité, l'œuvre était venue au monde d'emblée sous forme de copie d'elle-même et à quelques exemplaires, parfois quelques dizaines, tous différents. Ce monde postulé par Canfora fait le malheur des philologues. Ils se contenteront donc d'ouvrages inauthentiques et devront en tirer des commentaires. Mais il fait la gloire des copistes. Selon l'acception antique du mot, si le copiste, à en croire Canfora, devient le véritable artisan des textes qui sont parvenus à survivre. Je le cite, « Le copiste est celui qui, au sens matériel du terme, écrit le texte. Les mots qui le composent sont d'abord passés au travers du filtre et du crible de sa tête, puis ont été mis en état d'être conservés grâce à l'adresse de sa main, fidèle à la dictée intérieure. » Luciano Canfora fait un détour inévitable dans sa circonstance par le Pierre Ménard, auteur de Don Quichotte. Note 6, j'ai passé à note 5. Note 6, la référence devient un pensif. On pourrait remplacer de temps à autre Pierre Ménard par Maria Wutz, personnage de Jean-Paul Richter et modeste auteur de tous les livres. Il fait donc un détour par le Pierre Ménard, auteur du Quichotte, pour affirmer cette vérité simple. Le copiste est un lecteur, et la copie est un travail de lecture, ou pour mieux dire, la seule lecture menant à une appropriation complète du texte et l'acte de copie. D'après quoi, je cite, « Le seul moyen de s'approprier un texte consiste à le copier. » Bouvard et Pécuchet devaient être, il me semble, sensibles à cette hypothèse du copiste-lecteur. Eux, qui ont finalement tant lu, qui auront confronté leur idiotie difficilement définissable au contenu d'immenses bibliothèques. Eux aussi sont passés insensiblement de la lecture à la copie. Parfois c'était l'imitation, parfois du plagiat. Et l'appropriation du texte par la réécriture fidèle, le copiste devait l'éprouver sans le dire. Le moine copiste la revendique en faisant de la recopie d'un évangile un exercice spirituel. Gustave Flaubert l'a éprouvé au risque de s'en rendre, une fois de plus, malade. Il était devenu propriétaire de toutes ces sottises classées par genre. À force de les posséder, il risquait d'en devenir l'auteur. Des milliers de pages lues et donc copiées ou copiées et donc lues dans le genre sottise ecclésiastique, par exemple, donnent à son esprit, je cite, « une consistance d'hostie mâchée ». Cette métamorphose de l'intelligence flaubertienne en hostie mâchée, c'est l'identification de l'auteur à tout ce qu'il écrit, un réflexe et une force de comédien cabotin. Mais c'est aussi la conséquence mécanique de l'acte de la copie, qui s'est perdu depuis le temps, mais que Flaubert applique encore. Il faut dire qu'il vivait au temps de la plume, au temps où copier était un geste supposant une lenteur et une durée sur le point de disparaître aujourd'hui. Je suis en train de recopier, de corriger, de raturer toute ma première partie de Bovary, à Louise Collet, 1852. Je viens de finir ma première partie, je passerai la semaine encore à relire tout ça et à le recopier, à Louise Collet, 1853. Je suis accablé, la cervelle me danse dans le crâne, je viens depuis hier, 10h du soir jusqu'à maintenant, de recopier 77 pages de suite, qui n'en feront plus que 53. C'est abrutissant, à Louise Collet, 1853. Si vous ne venez pas demain samedi, je ne peux plus vous revoir que mardi, parce que dimanche, je recopie toutes mes pages. Et lundi, si vous voulez savoir des détails intimes, je me purge, monsieur, afin de bannir les humeurs pécantes et d'arriver frais à la capitale. À Alfred Baudry, 1862. Voici l'occasion de nous souvenir de cette évidence que notre ami Gustave a passé une bonne partie à recopier ses manuscrits en cours ou, comme dans le cas de Beauvoir et Pécuchet, recopier le scénario de son roman aussi souvent que nécessaire. Flaubert, 100 fois copiste de lui-même et des autres, avait de ses copistes Bouvard et Pécuchet une connaissance compassionnelle, confraternelle, qu'il nous est impossible d'avoir aujourd'hui. Avant d'être un sujet de moquerie contre la bêtise, avant d'être l'intuition d'un motif littéraire fantastique, la copie a été pour lui une pratique banale, constante, qui lui permettrait de comprendre mieux que nous ce que Luciano Canfora veut dire à propos du copiste comme auteur. J'ai posé tout à l'heure une question idiote, comment Flaubert est devenu Bouvard et Pécuchet, je voudrais en poser une autre. Comment Bouvard et Pécuchet sont-ils devenus copistes? Pour devenir jardinier, on le sait, ils se sont mis dans la peau du personnage, il y a eu le costume, on l'a dit, le chapeau, la barbe, la pipe, puis les outils et quelques livres. Pour devenir géologue, il a fallu acquérir la panoplie du géologue. Mais on ne nous dit rien de l'apprentissage de la copie, comme si le métier de copiste supposait une initiation privée, interdite aux non-copistes, ou plutôt comme si la vertu imitative, appliquée plus tard aux travaux d'écriture, était un don de la naissance. La copie vient naturellement, elle est l'inné sans pédagogie, permettant à la pédagogie de s'appliquer. Si l'art d'être copiste s'enseignait comme l'art de distiller l'alcool, on verrait Bouvard et Pécuchet mettre laborieusement en abîme leur effort de retraité. La copie serait une science. Leur essai maître, ses ouvrages de référence, ses écoles, on aurait des disputes. Tout bien considéré, il est fort possible que Bouvard ait appris son métier de Pécuchet et réciproquement Pécuchet de Bouvard par mimétisme, chacun trouvant chez l'autre ce que la copie a de plus précieux, la confirmation de soi, tandis qu'il imite et s'offre pour modèle. L'imitation n'étant rien d'autre alors que persister dans son être. Dès son ouverture en 1793, le Louvre a été une pépinière de copistes. On peut voir certains de ces copistes représentés sur des toiles peintes par quelques-uns de leurs collègues, le peintre peignant portraituré par un autre peintre peignant. Ils sont nombreux, ils bousculent leur chevalet, ils ont droit à un tabouret répertorié au magasin du Louvre et à quelques journées réservées dans la semaine en dehors des visites. Ils trouvent là le chauffage, comme plus tard Baudelaire qui donnera ses rendez-vous. Le Louvre est alors fait davantage pour ses apprentis peintres que pour les simples amateurs. On encourage l'émulation, on veut montrer et reproduire. L'idée est de ne pas laisser se perdre des beautés anciennes. On souhaite alors ne pas aller à l'encontre de tout ce qui est, de près ou de loin, pédagogique. En plusieurs décennies, on y peint des milliers d'œuvres, je veux dire des milliers de copies. Si on en croit un catalogue de commandes, cela donne pour la deuxième moitié du XIXe siècle 197 copies de l'Immaculée Conception de Murillo, 186 mariages de Sainte-Catherine du Corrège, 130 Christ au tombeau du Titien, 167 noces de Cana de Véronèse, mais seulement 71 Jocondes, qui attendra encore un peu avant d'être multiplié à l'infini. La copie satisfait tout le monde et les copistes se tiennent au chaud, ils privilégient les œuvres situées près des bouches de chaleur, ils répondent même à des commandes. À l'image des académiciens de Rome, ils font régulièrement la preuve de leur travail, autrement dit, ils fournissent. Le nombre et la ressemblance leur servant de caution. Plus tard, ils pourront vendre. Quand le Louvre ouvre ses portes, le même jour, aux peintres, copistes et aux simples visiteurs, le mélange des deux engendre des bousculades, c'était à prévoir, mais aussi des marchandages de bonnes affaires. L'auteur du rapport du conservatoire de 1794 se méfiait déjà par avance du regard posé par les visiteurs sur le chevalet des copistes. Ce qu'il dit de ce regard pourrait nous apprendre quelque chose de l'œuvre comme copie ou la copie comme œuvre. Je cite « Une curiosité bien naturelle aux hommes, qui sont étrangers à l'art, les conduit à vouloir en connaître les procédés, et le chef-d'œuvre en serait ainsi délaissé pour la copie. » Les vertus de la copie sont indénombrables. Non seulement elle coûte moins cher, elle est la preuve obséquieuse, respectueuse du chef-d'œuvre. Elle montre dans quelle mesure le chef-d'œuvre de génie peut se mettre à la portée du fabricant. Elle s'affiche au mur des particuliers en se fichant comme d'une guigne de l'aura des œuvres singulières. Et au moment même d'être exécutée, elle donne au spectateur le sentiment d'assister à un processus formidable, de le comprendre, de s'initier en profanant un tout petit peu les beaux-arts. Tout cela, les chevaliers, les bouches de chaleur, le petit commerce dans la galerie du Louvre, a lieu à une époque où la copie est acceptée et exposée en tant que telle au salon. L'époque où le modeste Xavier Cigalon, romantique parmi les romantiques, bientôt mort du choléra à Rome, s'engage dans la copie du jugement dernier, celui de Dieu et celui de Michel-Ange. C'est aussi l'époque où une commission d'achat se réunit une fois par an pour choisir les copies bientôt acquises par l'État, grand amateur alors de choses semblables. Pour mieux choisir, on place sur les étals l'original à côté de la copie et des crânes de représentants de l'État se penchent sur la copie, se servant de l'original pour admirer la reproduction. L'original devenu alors une sorte d'étalon provisoire, remisé à nouveau une fois qu'il a fait son office. Au sujet de la traduction, Jean-Paul Manganaro rappelle une règle technique devenue règle déontologique. Je cite « Le traducteur, c'est un rien ». Un traducteur ne doit pas être envahi par soi quand il traduit, il doit être dans l'oubli de soi totalement. On sait que d'autres traducteurs tout aussi talentueux n'ont pas ces scrupules, préférant en passer par la trahison subjective. Reste qu'on peut voir dans ce totalement l'adverbe du mystique, ou bien plus modestement à une échelle humaine, une manière d'être et de faire théâtrale, comédienne, puisqu'il s'agit plus ou moins de se glisser dans la peau d'un autre personnage. Jean-Paul Manganaro ajoute deux précisions. La première est que si le traducteur est un rien, ce n'est pas au sens moral du terme, preuve que le travestissement n'entraîne pas l'indifférence morale. L'autre précision est plus énigmatique. Elle suppose l'effacement de l'original en même temps que l'effacement du traducteur. On doit se contenter de cette énigme sans la résoudre, ou sans la résoudre trop vite. L'amateur de Shakespeare, toujours lui, collectionneur d'imposteurs, de traîtres, d'illégitimes couronnés et de garçons déguisés en filles, pourrait, avec rien de balise, s'appuyer sur ce paradoxe du traducteur pour démontrer comment l'usurpation est aussi un oubli de soi, l'effacement du moi de l'usurpateur. Que la copie, l'identification, presque l'usurpation, soient des moyens de parvenir à l'oubli de soi, Luciano Canfora l'exprime à sa façon quand il remarque que, dans un monde soumis à la loi de la copie, le plagiaire n'est rien d'autre sinon un copiste ayant perdu la notion de soi. Quand l'adaptateur en vient certains matins, je parle de moi, excusez-moi, quand l'adaptateur en vient certains matins à écrire à son commanditaire, je termine bientôt Bouvard et Pécuchet, ou bien Bouvard et Pécuchet me donne du fil à retordre. Il se sent totalement dans la peau d'un usurpateur, volontaire ou passif, un peu des deux. Pour se faire pardonner, il comptait déjà sur le labeur, l'aspect laborieux des choses, sur la trivialité de la situation. Une commande de la radio, 12 loyers à payer par an. Il peut maintenant compter sur la règle selon quoi l'usurpateur n'est pas l'odieux triomphe du moi, un moi contingent sur Gustave Flaubert, Gustave Nécessaire, mais l'inverse. Pour parler enfin de mon expérience d'adaptateur, ou plutôt de la situation dans laquelle le travail d'adaptation m'a placé, je voudrais une dernière fois citer Canfora. Selon qui, tôt ou tard, inévitablement, vient le moment où le copiste, devenu le, je cite, protagoniste actif du texte copié, parce qu'il est encore question une fois de tenir un rôle, le copiste se sent en droit d'intervenir. Kant aura dit, voilà la réaction typique et presque obligée de celui qui est entré dans le texte. À sa façon plus pécuchéenne que flaubertienne, l'adaptateur éprouve un peu de l'expérience de ce copiste intrusif. Pour lui aussi, l'adaptation passant par des heures de copie offre au copiste cette assurance de propriétaire qui lui permet plus tard d'écrire à la place de l'auteur. Aucun risque d'orgueil, l'imitateur est humble, l'usurpateur n'a pas d'égout. Le travail de l'adaptateur se situe dans une zone intermédiaire entre la virtuosité due à la manière d'eux et la redondance du copiste. Dans cette zone, l'intervention sur le texte est autorisée. Elle est le prolongement mécanique de la lecture. Et elle est une défiguration nécessaire, pas une trahison du traducteur, par exemple. Comme chez l'autodidacte et l'amateur, il y a chez l'adaptateur un sentiment d'impunité passant pour de l'omnipotence, qui s'accorde au mieux à son statut de subalterne. Ce sentiment lui vient du constat que l'œuvre, de toute façon, est déjà accomplie, le livre existe, et ça le soulage d'une grande partie du souci de la création. Il lui vient aussi des contraintes du théâtre et de la radio. Le théâtre, on le sait, doit ou peut se montrer trivial. Il tient compte d'un budget, il justifie des coupes et donne l'autorisation à l'adaptateur de devenir l'auteur à la place de l'auteur, tout en le bafouant. L'adaptateur a saboté le livre, tant pis. Il se sera nourri au passage du talent d'un autre. Il aura effacé des pages, se donnant l'impression de supprimer d'indigestes tunnels, peu importe que cela soit vrai. Au contraire, il aura fait le parasite en insérant une phrase de sa main entre deux répliques du maître. À ce moment, le plaisir du faussaire sera le sien. Il ressemble de loin à celui du peintre de pudeur quand il dessinait des braguettes par-dessus les sexes de Michel-Ange. Pour dire adieu au personnel, rien ne vaut l'exercice de l'adaptation. L'adaptateur est à la fois copiste et apprenti comédien. Il se fait petit. Il laisse le nom de l'auteur et celui du chef-d'œuvre occuper toute la place, en lettres grosses comme ça, et se glisse dans la peau de Gustave comme Gustave dans la peau de Pécuchet et Pécuchet dans le rôle du paysan modèle. Il ne prétend pas être Gustave, Flaubert, mais tenter au moins de le faire, car dans cette tentative, même ratée, son égo le laisse tranquille. Gustave Flaubert savait s'oublier dans les efforts nécessaires à la composition d'un vaste tableau, et voilà pourquoi les plans, les scénarios et encore des scénarios suivis de synopsis. L'adaptateur essaye la même méthode pour le même résultat, plus ou moins. Adapter Bouvard l'oblige à maîtriser une structure en 10 épisodes, quitte à jouer à Gustave un soir de colère et un soir de déprime, l'un et l'autre confondus. L'adaptateur pécuchien est intimidé face à l'œuvre énorme. Ses sabotages seront proportionnels à son respect. Le vandalisme de l'adaptateur est maladresse, erreur d'interprétation et nécessité de réduire le monument à la taille d'un bibelot. Il lui arrive de râler pécuchéennement contre l'absence de dramaturgie. C'est alors que débute une autre phase d'identification. Car le désespoir de Flaubert, prévoyant la forme que prendra son livre, la peur de composer un pensum et d'y voir toute la force noyée sous des citations, la crainte de l'ennui et de la répétition des séquences, toutes ces impressions, l'adaptateur pécuchéen les éprouve. Note 7. J'ai enfin terminé le premier chapitre et préparé le second qui comprendra la chimie, la médecine et la géologie. Et avec des personnages secondaires, car il faut un semblant d'action, une espèce d'histoire continue pour que la chose n'ait pas l'air d'une dissertation philosophique. Ce qui me désespère, c'est que je ne crois plus à mon livre. La perspective de ces difficultés m'écrase d'avance. Il est devenu pour moi un pensum. Des personnages, et surtout un semblant d'action. Ce dont un roman peut se priver, parce qu'il a le temps devant lui, un feuilleton de radio peut difficilement en faire l'économie, plus difficilement en tout cas. Bien souvent, l'adaptation oblige à dramatiser des actions qui étaient le plus souvent non dramatiques, étalées sur plusieurs saisons, ou bien essentiellement muettes. Par crainte de l'ennui et de l'informe, il faut retenir tout ce qui, dans le roman, lui donne la piste d'une scène à faire. Un repas, une visite au jardin, des expériences de physiologie, la répétition d'une scène de théâtre. Au moment où l'adaptateur invente les dialogues d'une séance de spiritisme, bien sûr, on frôle le crime de trahison. On cherche alors hypocritement à corriger la trahison de la scène par la fidélité des dialogues. Les dialogues, puisqu'on en parle, sont évidemment la matière première d'une fiction radiophonique et d'une pièce de théâtre à deux personnages. Ils sont le premier souci de l'adaptateur. Par chance, il est toujours possible d'extraire du roman des dialogues tels quels, composés sur mesure, et sur cette lancée défigurer un paragraphe narratif pour en faire un échange de répliques. Après quoi, l'adaptateur est bien obligé d'inventer encore. Vient alors le moment où il devient vraiment usurpateur. C'est le moment de se mettre dans la peau de Flaubert, de Bouvard et de Pécuchet et d'entendre un miracle. Parfois, c'est le dictionnaire des idées reçues qui fera don d'une tirade à Bouvard ou à Pécuchet ou à l'un de ses personnages secondaires sans qui il n'y aurait pas d'action. Après tout, le dictionnaire ne fera que restituer ce qu'il avait capté, et la règle selon laquelle tout ce que nous pouvons dire s'y trouve déjà inscrit trouve alors sa vérification. Enfin, l'adaptateur profite autant que possible des effets de l'antagonisme. Ce n'est pas pour rien que les bons hommes sont deux, pas pour rien non plus qu'ils affrontent des adversaires. La joute verbale permet de maintenir le rythme, de susciter l'action, là où il n'y a que du discours de cuistre, de citer des auteurs classiques et d'évoquer les grandes lignes de la pensée occidentale, tout en jouant comme un vaudeville avec les quiproquos. L'effet comique, la farce, au commencement du livre de Gustave Flaubert, doivent y trouver refuge, du moins si tout va bien. Contrairement à ce qu'affirmait Louis de Robert, que vous vous souvenez, je cite, « J'admire profondément Gustave Flaubert, mais je crois avoir le droit de dire qu'il écrivait mal. » Notre auteur est plutôt réputé pour la qualité de son écriture. Écriture que l'humble adaptateur pécuchien se doit de faire entendre telle qu'elle à l'auditeur d'une chaîne du service public. Voilà pourquoi le feuilleton, tant qu'il le peut, fait entendre la voix désincarnée d'un narrateur, partant de l'hypothèse que la narration, considérée souvent comme un dispositif balourd, fera la preuve de sa beauté, seule, autonome, ou par comparaison au voisinage d'un des extraits du Sautisier. Sa beauté, alors, la rendra nécessaire. Puisque l'adaptation est traître, elle a été payée, mon adaptation en tout cas, a été payée, ceci dit, pour être complètement triviale, à 80% comme une adaptation et à 20% comme une fiction originale. Note 8. Quand on veut gagner de l'argent avec sa plume, il faut faire du journalisme, du feuilleton ou du théâtre. Lettre au comte René de Maricourt, 1867. Puisque l'adaptation est traître et puisqu'il est surtout question de raconter, en plus des aventures de Bouvard et de Pécuchet, les aventures de Bouvard et Pécuchet, du livre, autrement dit les aventures de l'écriture, l'histoire des deux bons hommes est cernée comme d'une glose de l'histoire de Flaubert, auteur de l'encyclopédie farce. On devait, à la radio, trouver alors dans la fiction des extraits de sa correspondance. Je vais commencer un livre qui va m'occuper pendant plusieurs années, etc., etc. Et d'autres extraits, toujours de cette même correspondance, mais métamorphosés en dialogue entre Flaubert et ses correspondants, mais aussi des morceaux de ses carnets. Chaque fois que possible, l'adaptateur pécuchien s'amuse à accorder les extraits de la correspondance avec l'épisode en cours, plaçant par exemple une diatribe hypochondriaque dans le plus pur style faubertien au milieu du feuilleton consacré à la médecine et à l'hygiène. Sur le même principe, pour faire joli, mais aussi pour tenter de régler comme Flaubert le détail en l'ensemble et enfin pour prouver que le roman et ses à côté sont un tout harmonieux, l'adaptateur introduit au milieu d'une scène des entrées du dictionnaire ou les fragments de l'immense Sautisier dans le ton du sujet en cours. Le tout dit par le comédien Claude Aufort d'une voix de prêtre devenu mécréant, sans rien perdre de sa componction. Il faut couper pour faire entrer une encyclopédie farce dans un poste de radio, même dans 250 minutes de feuilleton. Il faut couper davantage encore pour faire tenir tout Chavignol, les voisins, les bibliothèques, les jardins et les alambics sur une petite pièce de scène de théâtre. Là, Bouvard et Pécuchet se retrouvent seuls, parce qu'il faut bien obéir à des contraintes prosaïques, comme le salaire des acteurs. Note 9. Le théâtre est une boutique si abominable que le temps est proche où pas un honnête homme ne voudra s'en mêler. Seuls, les deux bons hommes évoluent dans un univers né de leurs propres paroles, des livres lus, des hypothèses émises, des diatribes, des disputes et de quelques idées reçues, comme si chaque mot élaborait une partie du décor. Ils semblent se situer hors du temps, comme le suggérait Borges, lecteur de Flaubert, une éternité de copistes, évoquant celle des bibliothèques. L'enchaînement des scènes au théâtre, donc des matières étudiées par les bons hommes, se déroule dans une unité de temps en suivant les associations d'idées. d'une rigueur comique, espérons en tout cas. En renonçant à bon nombre des savoirs abordés par le livre, comme la pédagogie ou la politique, la pièce en un acte dessine ou souhaite dessiner un parcours intellectuel allant du plus trivial au plus abstrait, de la fabrication des engrais jusqu'à la métaphysique de Spinoza. Le parcours peut rester fidèle à l'idée d'une encyclopédie farce, en effaçant un peu le thème de l'échec et donc l'effet comique ou grotesque associé à la maladresse ou à la débandade. Il conduit Bouvard et Pécuchet de rien à rien, deux incarnations différentes du rien, un rien trivial d'abord, un rien sublime enfin, rien étant le premier et le dernier mot prononcé sur la scène. Les derniers épisodes de la version radio, il y en a 10, sont les plus décousus. Le dernier est fait de redites. On y entend plusieurs fois le célèbre incipit du boulevard Bourdon, et plusieurs fois encore des fragments de ces nombreux scénarios qui font varier le nom des deux bonshommes. Il faut y voir la tentative de rendre compte, tant bien que mal, de l'extraordinaire machine bouclée sur elle-même, faite de reflets et de miroirs qu'aurait dû être le roman si Flaubert l'avait achevé. Mais j'aimerais aussi qu'on entende ces répétitions à la fois comme le symptôme de l'autarcie des deux copistes à l'abri dans leur éternité, et comme un témoignage de la forte impression laissée par la lecture de tous les scénarios successifs. Ils sont le signe d'un travail acharné, d'une idée fixe évoluant avec patience. Ils sont aussi un bel exemple de copie, de ce que la copie peut avoir de fertile entre les mains d'un maître. Voilà, j'ai plus de feuilles, c'est fini, merci.
Il est prévu qu'on fasse une pause, donc je vous propose une pause.